propose, si vous en êtes d'accord, que l'on ajoute en 11e question l'avis du conseil municipal sur la création d'une 12e classe. Nous avons reçu un courrier dans la semaine de l'académie. Ça a été évoqué en conseil d'école jeudi. Et je pense qu'il serait de bon ton que l'on réponde rapidement à l'académie sur notre acceptation ou notre refus, en tous les cas qu'on ne diffère pas notre avis sur la création de cette 12e classe en réflexion. Est-ce que vous ne voyez pas d'objection ? Donc Pascal Faux rapportera en point 11. Premier point, donc approbation de la convention Grance avec le CNFPT relative à des actions de formation. Donc, vous savez qu'on a une convention qui a différents types de formation avec donc, le CNFPT. Vous avez les tarifs, vous avez les habilitations, ça fait partie des trucs de formation, qui d'ailleurs, je suis très heureux, beaucoup d'élus y vont de plus en plus. Et on a également les formations des personnels qui y vont également. Y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions ? Je considère que vous m'autorisez à signer cette convention. Pas d'appel contre, pas d'abstention. Merci. Alors, il y a également une convention de mise à disposition. En fait, c'est un renouvellement des conventions de mise à disposition d'un agent communal. On a un agent communal qui... deux agents communaux. Un agent communal et un agent du SAM, qui, sur le territoire de Grance, sont sur le plan préféré, permutés. Une qui était au service technique se sent beaucoup mieux, à être... à disposition de Ouest-Provence à Roquefort-Seine, il y a de faire les entrées, etc. Donc c'est Viviane, pour ne pas la nommer. Et la personne qui avait embauché la régie est passée en remplacement de Viviane qui devait monter aux ateliers suite à la disponibilité pour maternité de Madame Tricot. Donc c'est le renouvellement de cette convention, étant entendu que ce que l'on paie à cet agent est remboursé par Saint-Lessimé. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Création d'un deuxième poste d'ASEM. Alors, il ne s'agit pas d'un ASEM deuxième poste, il ne s'agit pas de créer un poste. Je vous rappelle que, suite au départ à la retraite de Mme Berton, nous avions embauché Mme Rébillet, mais qui n'avait pas son diplôme, donc elle n'était pas en poste d'ASEM. Nous avons supprimé le poste d'ASEM. Mme Rébillet a réussi son concours d'ASEM, il s'agit donc de recréer le poste d'ASEM pour qu'elle soit officiellement mise dans la case, c'est pas la création d'un poste. Des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Modification des compositions des commissions municipales. Alors, suite à des rectifications qu'on vient de nous redonner, pour faire simple, donc il s'agit de prendre toutes les commissions municipales où était Madame Sandrine Martinez et de considérer qu'il y a Madame Charbonnier Marie-Madeleine et de prendre toutes les commissions où il y avait Madame Langeron voilà, et de mettre Madame Martinez. Ok ? Pas d'objection ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Approbation du règlement intérieur relatif au repas du mercredi 3e âge, Madame Arnoul.
Je vous propose d'approuver le projet de règlement de la consigne du 3e âge le mercredi. En fait, il n'y avait pas de règlement intérieur. Et je propose de mettre en place un système d'inscription pour avoir une meilleure gestion des commandes, des préparations de repas et puis du travail du personnel de cantine. Donc voilà.
Je rappelle que ça, c'est que je vous fais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des inscriptions, dans la mesure où il n'y a pas d'inscription. Le service cantine se fie un peu aux habitudes, et puis il suffit qu'il y ait, bon, c'est finalement la neige, mais la pluie, ou je ne sais pas quoi, et on peut passer de 60 repas à 40 repas, donc c'est quand même un tiers de bouffe qui part à la poubelle.
Et bon, ce qui est rarement arrivé.
Non, il y a l'argument sur les aïolines, quand il y a des repas qui plaisent beaucoup, les gens ne s'inscrivent pas forcément et on se retrouve avec plus de personnes à venir manger que de repas confectionnés. Donc c'est pour éviter et dans un sens et dans l'autre.
Donc l'inscription est relativement simple et relativement facile à gérer, mais c'est pour au moins et dans les délais qui sont assez raisonnables pour que vous ayez des gens qui sont là, parce que je rappelle quand même la cantine. C'est un plus que c'est pas un restaurant et que si on fabrique les repas et qu'on les jette, c'est quand même pas très probant. Je rappelle également qu'il y a un aspect qui n'était pas réglementé, c'est que c'est bien, même s'il y a des possibilités d'inviter, mais c'est bien dirigé en fonction des personnes de troisième âge, que s'il n'est pas interdit de faire des invités, là non plus, ce n'est pas un restaurant, et on ne peut pas inviter toute la famille donc, pour fêter l'anniversaire au truc, et j'exagère un peu, mais à peine, avoir 8 ou 10 amis qui viennent et on va tous manger à la cantine, on va dire, avec des gens extérieurs. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un carcan, il s'agit quand même de rester dans un contexte qui permet de gérer des repas qui sont quand même à 3 ou 4 euros, quand même assez modérés.
Et ça permet aussi de recentrer un peu, c'est la restauration du troisième âge, et c'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas forcément du troisième âge, donc c'est un truc pour commettre les choses.
Et on n'avait aucun moyen de dire non, de dire oui, puisque nous sommes du même. Nous sommes deux.
Donc là, effectivement, mais par contre, si on mise en place dans la démarche, c'est normal. Donc là, c'est vraiment pour restreindre aussi, parce que là, monsieur Vidal, vous en avez parlé, donc effectivement, le problème de cette restauration, c'est que parfois, ça pouvait aller du carage, à 60 personnes, ne fonctionnerait pas, c'est une maison.
Ah non, mais s'il y a 60 esprits, on peut manger 60 esprits. Le tout, c'est de connaître un homme.
Non, pour moi, c'est que vous faites l'exercice ce soir, parce que ça, c'était bon. Quand on a mis en place de ce règlement, on la trouve, hein, c'est tout à fait normal à un moment donné de réglementer. Mais ça me fait plaisir d'entendre un peu ce soir des choses qu'on n'a pas forcément vu il y a 6 mois ou un an, parce que je crois qu'on en avait parlé. Quand on avait mis la mise en place des tarifs, on avait parlé de ce problème du mercredi. Et je me rappelle qu'ici, dans cette assemblée, on avait dit deux choses. Premièrement, ça tournait toujours autour de quelques personnes. Donc on avait dit, c'est pas la peine de mettre des tranches, plusieurs tranches, des tarifs pour faire gagner des sous.
Non, tu parles pas du troisième âge. Hein.
Si, le mercredi, on parlait du mercredi.
Oui, non, mais là, ce que tu avais évoqué, c'était les personnels communaux ou du SAD.
Non, pas du tout. C'était le repas du mercredi midi, que c'était le tarif unique, qui n'est pas de 2 euros ou 3 euros.
Ah, des par classe de revenus.
Oui. On nous avait répondu que bon, ça tournait autour de 15 personnes. Ce soir, on apprend que ça peut aller de 40 à 60 personnes. Donc, le chiffre est différent. Ensuite, deuxièmement, je parle de ce problème de tarif. Je me rappelle qu'également, dans cette assemblée, on avait dit que le mercredi, c'était parce que c'était festif. Alors, j'aimerais que, bon, je pense que les tarifs, on a dit qu'on allait aborder un peu plus tard. On en reparlera. Parce que moi, j'aimerais un peu alerter le conseil municipal au sujet des termes qu'on avait entendus, c'est-à-dire le mot festif, et que les deux tarifs en place pour le mercredi midi, c'était 4 euros les caisses, si je m'en rappelle bien, et les extérieurs, c'était 6 euros les caisses. Et puis on a fait une étude donc, du coût réel de repas du mercredi midi, il s'est avéré que le repas tourne autour de 8 euros. Alors c'est pour le mercredi, c'est 8 euros.
Des fois plus.
Alors j'espère que j'entends ce soir qu'on peut approcher 60 personnes à manger le mercredi midi et que jusqu'à là, il y a même des gens extérieurs qui pourraient venir. Donc ça veut dire par là
qu'il y en avait déjà. Il y en avait
déjà. Bon, pour limiter, c'est très bien. Je reconnais. C'est une question que je peux avoir avec tous. Est-ce normal que quelqu'un extérieur paye le repas 6 euros 20 quand on sait que ça me coûte 8 euros. Donc, c'est dans ce sens-là que, il y a souvent un an qu'on en avait à parler, nous on trouve un peu dommage, mais ce soit plutôt un grand soir qui paye son année, un extérieur payé, il paye 6 euros 20 et que le repas coûte 8 euros.
Ça, ça fera partie des tarifs, mais parfois, d'abord, il faut qu'on fasse un règlement pour après donner les critères.
Et en fait, là, justement, les gens qui sont inscrits, les grands soirs, auront un tarif ou tarif de 4 euros 20. Et en fait, seule une personne extérieure pourra être invitée occasionnellement pour justement permettre que ça reste à disposition essentiellement des grands soirs pour.
Sans enlever le côté festif, il peut y avoir deux copines, bon, le lait à manger, donc on ne va pas être cet aspect un peu convivial, et sans que ce soit, comme on le voit parfois, il y a des tables entières d'invités. Mais ça, oui, le problème, c'est un peu le succès qui fait qu'on en arrive. Quand c'était deux, trois invités qui avaient. Effectivement, on a commencé à 15, à 20 le repas avec un ou deux invités. Maintenant, je suis sûr que mercredi, il y a 62 personnes, et sur 62 personnes, il y a 25 qui ne sont pas de grands. Hein. Mercredi, il y a la Yuri. Mercredi, les stands, ça il va y avoir. Ça va être archi complet, hein, et bon.
Non, mais bon, c'est juste de proposer, de remettre sur le plan, que ça peut être une explication qui peut être à
Monsieur Ruiz, monsieur Ruiz.
Je voudrais préciser que la commission finance a déjà travaillé depuis deux séances sur les tarifs, et que nous continuerons, avec, je crois, c'est au mois de mai ou au mois de juin, qu'on envisage de continuer à travailler là-dessus, en relation avec les autres commissions, bien entendu, et on aboutira à quelque chose, c'est une refonte, hein. C'est pas simplement augmenter les tarifs, hein, c'est aller au fond des choses.
Donc ça c'est la première pierre un peu de cet aspect qui a un peu débuté, parce qu'au début effectivement, je vous rappelle l'histoire, hein, il y avait un restaurant troisième âge qui était où il y avait la médiathèque, où il y avait 60 personnes, on avait fini à 10, avec 100 000 balles de déficit par mois, donc on avait arrêté, puis on était resté sans rien, puis certains sont venus nous dire oh, ben, si on avait de temps en temps un repas comme ça, donc on a rouvert le mercredi avec 10-15 personnes, puis on est passé à 30, et puis après 30, et chacun fait ses 2-3 invités, donc on en arrive, ce qui est logique, à recadrer un peu la situation, c'est la première période, la deuxième période, ça sera au revoir le tarif. Voilà. Il vaut mieux le succès, bon, les choses se font un peu comme ça, voilà. Au fur et à mesure de la demande.
Moi je voulais intervenir, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas... toucher, ni refondre quoi que ce soit. On a simplement dit, quand vous aviez proposé par tranche sur le mercredi, on avait dit qu'on allait réfléchir, mais on ne savait pas du tout comment on allait évoluer. Et on n'a jamais dit qu'on n'arrivait pas cette chose-là.
On avait proposé, il y en a.
Non, vous aviez proposé tarif par tranche pour le mercredi.
Oui, mais attendez, pourquoi pas ça aussi.
Mais on n'avait pas dit non, on avait dit qu'on allait réfléchir à comment on allait procéder.
Mais non, vous aviez voté qu'un seul tarif à 4 euros et quelques, il y a 6 euros.
Oui, pour l'instant,
je reviens sur le premier point qui permettra justement de faire des tarifs pour les invités, les extérieurs, etc. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'on ait un règlement, sinon on ne pourra pas appliquer les tarifs. Il faut que chacun soit étudié. Donc sur le règlement, est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, participation, utilisation des voies et des réseaux sur le territoire de la commune, Madame Boulanger.
Depuis le 1er janvier 2009, il a été mis en place un nouveau dispositif de financement des raccordements suite à deux lois, une de 2000 qui est la loi solidarité et renouvellement urbain et 2003 urbanisme et habitat. Ce dispositif est mis en place donc par ERDF, anciennement EDF, qui facturera désormais aux collectivités locales en charge de l'urbanisme la majorité des coûts des travaux, des raccordements, alors qu'avant le coût était facturé directement aux pétitionnaires qui demandaient un permis. Donc ces montants facturés sont revus à la hausse. Avant, on payait un ticket, c'est-à-dire qu'on payait par tranche de travaux, donc il y avait un forfait qui était aux pétitionnaires par tranche de travaux. À aujourd'hui, EDF prend en charge 40% de ses travaux, il nous laisse à notre charge 60% de ses travaux. Donc je vous propose donc de prendre une délibération cadre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend acte de cette PEDR, donc cette participation pour voies et réseaux, mais nous prendrons donc une délibération à chaque proposition de nouveaux projets d'urbanisme sur la commune, pour savoir un petit peu où on va, et quel est le montant de ces 60%, parce que 60% de 2000 euros et 60% de 50 000, l'intervention n'est pas du tout la même.
Ça concerne également les particuliers, que les pétitionneurs,
tout le monde, l'ensemble des pétitionnaires.
Si vous avez qui les permis de construire pour se faire accorder, maintenant il sera.
Si EDF a décidé que le raccordement n'est plus pas aux normes où il n'y a pas assez d'électricité, il peut mettre un supplément.
En fait, c'est un retour quelque part en arrière de la procédure rurale qu'on connaissait, où la mairie payait les sanctions. Aujourd'hui, à partir d'un permis de construire, EDF, si elle a un quartier un peu sous-alimenté ou limite, peut nous imposer de payer la remise à niveau, alors qu'actuellement c'est à sa charge, la remise à niveau de tout le quartier sous le principe qu'il va y avoir un permis.
Techniquement, on n'a pas le choix. C'est eux qui décident.
Oui, c'est le premier
janvier. Alors, c'est pour savoir si nous, on répercute aux particuliers.
Non. Non. Pour se donner une marge de négociation, parce que si c'est un particulier, si, c'est un, si on fait un truc, on dit on prend les 60%, bon, comme dit Fabienne, si c'est un lotisseur qui arrive, qui fait 40 villas, qui a 100 000 euros et qu'on a 60 000 euros à notre charge et que ça va remplir les caisses du lotisseur, c'est une discussion. Si c'est un particulier qui a grandi, qui fait que, à ce moment-là, il peut y avoir une négociation entre le particulier et l'EDF. Ce n'est pas les mêmes conditions. C'est nous donner une marge de discussion pour faire la différence justement entre les 2 000 euros de particulier où il faut changer le poteau et carrément le réaménagement d'un quartier, parce qu'il y a un lotissement de 15 ou 10 villas, je ne sais pas quoi, ou 3 villas qui s'installent, où l'EDF nous fait refaire tout le réseau.
Est-ce qu'on peut faire savoir à la population ce changement
pas c'est la loi. Le nouveau saucisson, il me semble, moi, le nouveau saucisson qui me semble sur la tête.
Oui, tout à fait,
faire
un article là-dessus. Voilà.
Alors, la délib est volontairement... La délibe est volontairement vague, fait vague large pour nous permettre de négocier au coup par coup en fonction des montagnes. Et si on dit qu'on accepte carrément les 60% quoi que ce soit,
ça dépend des projets aussi.
Ça dépend des projets. Il peut y avoir des situations où on peut être intéressé parce que ça en donne plus, et puis des projets où on ne prend pas de vendeur. Hein. Voilà, si vous avez d'autres questions sur le 17, qui est contre, qui s'abstient, sur l'unanimité, merci. Monsieur Ride, avant sur subvention pour le CCR. Ah pardon, oui, je la voûte. Approbation du bail, la voûte. Alors je fais un petit rappel, la voûte a été louée au moment de la prise en charge par le SAN de la culture. Et donc le bâtiment La Voûte étant au service de la culture d'association, donc c'est le SAN qui payait le loyer, le chauffage, l'éclairage, la femme de ménage, etc. etc. Dans le cadre de la redélibération des compétences, on a retransféré beaucoup d'associations culturelles, puisqu'on n'a conservé que les théâtres et que les grosses opérations culturelles, médiathèques, etc. Dont la voûte revient en dotation municipale. Mais, dans le cadre des transferts de compétences, le SAN nous a retransféré la totalité du loyer, du chauffage, de l'éclairage, de la femme de ménage, etc. etc. C'est-à-dire que pour le budget communal, on va payer le loyer, on va payer le chauffage, on va payer l'éclairage, mais sur la dotation du SAN, on encaisse la compensation. Voilà. Donc sur le but, mais aujourd'hui c'est nous, alors que c'était le SAN qui était bailleur, aujourd'hui c'est nous qui sommes bailleurs, et qui c'est le budget communal qui paie, mais la dotation du SAN est abondée du montant de la dépense, qui est de 12 000 euros par an. Oui. Puisqu'on a chiffré le chauffage, l'éclairage, la location et tout, on a 12 000 euros. 12 000 euros. À tous les ans, 12 000 euros.
Ça se voit au cours de la convention.
Ah, la dotation, c'est une obligation. C'est-à-dire que quand le SAN verse une dotation, dans le cadre des compensations, si pour des raisons X, son budget ne pouvait pas, il serait obligé d'augmenter les impôts pour pouvoir verser sa dotation. Elle est figée. Elle est réglementaire, elle est figée. Ça fait un grand débat, justement, avec des communes actuellement qui essaient de vouloir attirer plus. Le problème, c'est que c'est figé à la hausse comme c'est figé à la baisse. C'est-à-dire que la somme, elle est contractuelle avec des éléments précis. Là, les 12 000 euros, c'est parce qu'on a justifié tant de loyers, tant de chauffage, tant d'éclairage avec des factures. Donc ça a fait 12 000, ça aurait fait 13 000, c'est 13 000. C'était 10 000, ça aurait fait 10 000. Mais on ne peut pas, comme certaines communes demandent parce qu'elles sont en difficulté, dire ben, on ne peut pas négocier à 15 000 ou à 18 000. Non, c'est sur des éléments comptables. Par contre, ces 12 000 sont figés à vie. Enfin, à vie. Bloqués, ils ne sont pas renégociés tous les ans. C'est pas non. C'est la dotation de participation. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui oui.
Pardon, une petite précision, il y a eu une erreur. Non, c'est celle d'après. Là, par contre, vous avez une durée qui est d'un an, c'était une erreur d'Imo Concept avec notre bail, c'est 3 ans la durée pour se calquer sur le bail qu'avait le SAN, puisqu'on récupère hein, les clauses administratives du SAN.
On le voyait chez le pas, le critère chez le pas, on récupère le bail à notre nom.
Une consommation par entier sur Malte, l'année
Ah oui, oui, ça, oui. Bah, c'est nous qui avons maintenant, j'ai tenu tout. Bon.
Jusqu'à la prochaine négociation.
Ah non, 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 c'est qui mais demain, alors, il y a la solution. On utilise plus la route. Bon, là, on a fait des moyens et des factures et puis on a fait établir et on vient de réaliser ce qui se passe sur le terrain. Bon, demain, pour X raison, on utilise la route tous les jours, on chauffe toute la journée. On y perd. Demain, on ne loue plus la route. Vous voyez, il reste. C'est-à-dire que même si on ne loue plus la route, c'est rentré dans la dotation ne bouge pas. Demain, on dit la route, on n'a plus besoin parce qu'on a créé d'autres salles, on a fait d'autres suites, on est propriétaire, on arrête le bail. On peut dire que c'est 12 euros. Ça marche à L2-16. D'autres questions? Non? Qui contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors j'en viens au point 8 sur l'avance, comme tous les ans, de subvention au CCAS pour leur permettre de tourner.
Oui, alors dans l'attente du vote du budget, qui je pense que la moindre de changement aura lieu le 16 avril. Nous avons constaté que le CCAS est confiné, donc nous autorisons besoin des autorisés une avance de 100 000 euros pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont besoin.
Oh, c'est tous les âmes. Des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, monsieur, les conventions avec les pompes funèbres de la régie de Miramas. Monsieur Ruiz. C'est moi?
Monsieur le Viste, oui.
Ah, moi, j'ai Ruiz, mais je veux bien rapporter. Alors, non, non, je rapporte, pas de problème. J'ai le Ruiz, c'est moi. Donc, nous avons été sollicités par la commune de Miramas. Je vous rappelle que depuis une dizaine d'années, les pompes funèbres sont totalement libres et ne font l'objet d'aucune convention, qui a été le cas dans des temps où les mairies conventionnées avec des privés ou avec des régies municipales et avec sa régie. Tous les gens pour l'intérêt grand étaient obligés de passer par la régie ou avec une convention avec la société X ou Y et tous les gens étaient obligés de passer par la société X ou Y. Il y a une dizaine d'années, l'ouverture à la concurrence a fait qu'il n'y a plus de convention avec personne et tout le monde a traité comme il le voulait, avec qui il voulait et comme il voulait. Ça a mis aussi, lorsque les communes avaient des régies, les régies en concurrence, c'est-à-dire que la régie de Miramas ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui intervient sur Miramas. Les sociétés privées peuvent en laisser. Mais, en réciprocité, les régies peuvent conventionner avec les communes d'à côté pour proposer leurs services, qui ne sont pas des services obligatoires et définitifs, c'est-à-dire que sur Grand, si on signe la convention, la régie de Miramas pourra enterrer des gens de Grand à Grand par la régie municipale de Miramas, mais pourront continuer avec la société X ou Y. Ça nous semble être un avantage pour les grands soirs, je pense qu'ils voudront, car le prix pratiqué par la régie de Miramas est de l'ordre de 30 à 40% moins cher que le prix, pour un enterrement moyen, hein, que le prix pratiqué par à peu près toutes les sociétés privées. Dans la mesure où ça permet au service public de Miramas de mieux fonctionner, alors je vous rappelle qu'ils ont déjà une convention avec la ville de Saint-Chamond. Donc, dans le contexte actuel, si, puisque le premier prix est à 1266 euros, quand on sait que le premier prix d'enterrement c'est 2000 euros, cette convention n'a pas valeur de monopole, et permet à des grandes sommes de bénéficier de ce tarif. Après, ils feront ce qu'ils voudront, ils feront zéro. Mais ça permet à Miramas de venir, de la régie Miramas, de venir d'abord d'amortir ses coûts, parce que ça les amortit, et du coup de maintenir le service, et nous d'avoir 30 à 40% de possibilité d'un coût de moins. Probablement, on va avoir des récriminations des sociétés privées, mais bon, voilà. Donc, mais pour cela, nous sommes obligés de signer une convention pour permettre aux agents de Miramas de venir sur le territoire de Grand et d'avoir accès au cimetière, vous savez que c'est très réglementé. Voilà, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. C'est là qu'il y a un article 6. Alors, il y a un article qui est modifié, justement, parce qu'à propos de ce que je disais, la convention ne s'applique pas qu'à la Miramas et on ne peut pas faire que dans l'article 6.
Dans la convention que vous avez reçue avec l'ordre du jour, qui était la première mouture présentée là par la régie de Miramas, à l'article 6,
la présente convention nous interdisait de signer une convention avec une autre entité. On disait qu'on ne pourra pas déléguer l'exercice de ses missions de service public à une régie d'entreprise ou une association. C'est pas légal de se priver de cette faculté dans une clause, puisqu'il n'y a pas de monopole et qu'on est uniquement sur des notions de délégataire officiel ou préférentiel. Dans l'article 6 que vous avez est devenu la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction d'année en année, point final. Il n'y a plus de mention qu'on s'interdit de signer.
C'est-à-dire que s'il y avait une régie à Salon, on pourrait re-signer une convention aussi avec Salon, le difficile est quand même de Salon. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exclusivité. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, je vous propose que l'on passe au point 11 de la 12e classe, en donnant la parole à Pascal Cour. Et qu'après on termine par le débat d'orientation budgétaire, qui est plus global, de manière à avoir évacué toutes les questions, je dirais, plus administratives, même si elles ne sont pas qu'administratives, mais un peu plus générales. Pascal.
Donc, l'inspection académique, suite aux remontées de résultats prévisionnels pour la maîtrise des effectifs de l'école élémentaire, a proposé une ouverture de la 12e classe. Le conseil d'école de vendredi s'est prononcé favorablement à cette ouverture et nous demandons de délibérer pour accorder la création de cette nouvelle classe, sachant que nous avons les logos nécessaires pour la faire fonctionner.
Et que si le conseil est d'accord, si on a l'ouverture, il faut tout de suite que l'on commence à envisager, parce que même si on a les locaux, il faut quand même y mettre des tables et des chaises, et donc de prévoir avant l'été, des commandes pour que, si elle est ouverte, ce qui semble probable, à la rentrée, il n'y ait pas que la salle, mais qu'il y ait aussi le siège. Donc, d'anticiper tout de suite les consultations. Des questions? Est-ce que je considère que sur cette plutôt belle annonce, l'ensemble du conseil est unanime pour mettre un avis favorable à l'ouverture de la 12e classe? Donc, unanimité pour. J'espère que j'aurai pas, il semble que le nuage est en train de s'éloigner, mais en même temps qu'on avait un nuage, on fait plutôt le ciel bleu, qu'on avait un nuage sur l'école maternelle qui semble un peu s'éloigner. Voilà, mais voilà, on en est là. Je ne sais pas qu'on ait une fermeture et une ouverture. Au moment où on est sur une ouverture, tant mieux. Restons dans là et j'espère que je n'aurai pas à vous évoquer la deuxième volée. J'en viens donc au point 10. Qui est le point fort de ce conseil municipal, qui est le BOB, et qui permettra donc de présenter le budget 2009 au mois de mars. Monsieur Ruiz. Pardon, excusez-moi. Oui.
J'ai une déclaration à faire avant.
Oui. Oui.
Au nom du groupe, bien évidemment, donc je vous dis pour éviter quelque chose. Donc, lors du conseil municipal d'avril 2008, nous, les élus du groupe de démocratie grand soir, avons participé au débat d'orientation budgétaire au même titre que tous les élus du conseil municipal. Nous avons en ce sens joué pleinement le jeu de la démocratie. Depuis les élections de mars 2008, nous avions, vous et nous, conjointement acté le principe de la main tendue, faisant alors du conseil municipal de Grance le conseil municipal de tous les Grançois. Aujourd'hui, dans la page expression libre du mois à Grance de février 2009, vous tenez des propos que nous ne pouvons tolérer. Depuis 2006, l'opposition siège au conseil municipal sous le nom de démocratie grançoise. Cessez donc de dénigrer les différents partis politiques grançois. Vos écrits, qui ne font qu'installer un climat malsain dans notre village, sont indignes de notre conception de la politique. C'est pourquoi, à notre grand regret, contrairement à l'année dernière, nous ne participerons pas ce soir au débat d'orientation budgétaire. Pour autant, nous maintenons le principe de la main tendue pour l'avenir. Merci beaucoup.
Alors, moi, je tiens à l'expression libre. C'est l'expression libre. Donc, je maintiens que la page d'expression libre chaque groupe met ce qu'il veut, et nous pensons, oui, non, mais c'est bon, je crois de ne pas l'apprécier. Le but même de ça, c'est de marquer. Je rappellerai néanmoins que vous avez capacité de droit de réponse, que la réalité politique est ce qu'elle est, et que c'est de notre responsabilité, du groupe de la majorité, où il y a aussi des sensibilités différentes, de prendre en considération et d'informer François ce qu'il pense être de la partie politique politicienne de comportement des élus de démocratie françoise. Donc, que la page et que notre interprétation ne vous plaise pas, j'en prends acte, mais je ne pense pas que la majorité se lève le droit d'y marquer ce qu'elle a envie. Voilà. Que ça ne vous plaise pas, il y a tellement eu, non mais c'est votre droit de dire que ça ne vous plaît pas, mais sur la main tendue, il y a tellement eu de phrases et de mots que nous aurions aussi beaucoup espéré qu'elles n'y soient pas, dont acte. Maintenant, moi je vais dire, et vous allez encore dire que j'agresse, je vais dire que c'est un moyen très habile, et bravo messieurs et mesdames de démocratie françoise, de vous lever ce qu'est l'acte principal de l'opposition, qui est le débat budgétaire. Car l'acte principal d'un conseil municipal, c'est le budget. Et la loi a obligé pour permettre aux oppositions d'avoir un débat démocratique, d'avoir un débat budgétaire d'orientation qui permet à chacun des groupes, évidemment qu'au bout du bout, il peut y avoir des amendements, mais qu'au bout du bout, la majorité qui a été élue, qui est majoritaire, fait souvent prévaloir son orientation du budget, parce qu'elle est tenue par des programmes, parce que c'est la majorité, et comme l'opposition, c'est comment l'opposition aussi vote contre le budget. Mais la réalité du débat démocratique, et c'est une pirouette, qui est une pirouette, à mon avis, vous tirez une balle dans le pied, que sous l'aspect de dire, il n'y a pas le débat démocratique, donc on ne débat pas de l'acte essentiel qui est le budget, est une manière peut-être à droite en apparence, mais qui est une très très grosse ficelle, pour vous permettre au conseil municipal du mois prochain, où on va vous présenter le conseil municipal, mais qui sera bouclé, parce qu'on aura 3 jours pour le voter, le budget au conseil municipal qui est bouclé, de nous dire, mais votre orientation, vous avez trop dépensé là, vous ne proposez pas assez, ben, l'acte d'aujourd'hui à la limite, cette déclaration, si elle ne vous permettait pas de vous envoyer en touche sur le débat budgétaire, ça aurait été de participer au débat budgétaire et de prendre vos responsabilités ce soir, et de ne pas participer au vote du budget et de faire cette déclaration le mois prochain. Mais comme je pense, quand vous êtes gêné, mes amis, je vous laisse parler, je vous redonne. Comme je pense que vous êtes gêné sur le débat d'orientation budgétaire parce que vous n'avez rien à dire, sauf les cas classiques, habituels, des dépenses, des trucs, machin, et que je pense que ça prouve que notre budget, notre débat, qui a fait l'objet d'ailleurs avec l'opposition dans la commission des finances, de débats où il y a eu très peu de questions, ce qui est normal, mais très peu d'observations, je pense que votre déclaration de ce soir est une démonstration que la proposition que va faire Manuel Ruiz dans sa loi de finances est un excellent budget et que vous n'avez rien à dire, et pour ne pas dire que vous n'avez rien à dire, vous sautez sur cette lettre qui est une lettre de débat qui n'a aucune importance de plus et que les gens ont oublié, pour vous soustraire à votre positionnement en tant qu'élu sur le débat budgétaire qui est un acte essentiel politique. C'est votre droit, faites-le. Donc, il y aura un débat, il va y avoir un débat parce que d'abord c'est la loi. Donc, M. Manuel Ruiz va expliquer, en tous les cas au moins aux journalistes et à la population, l'orientation de la majorité. Je prends acte que vous n'avez rien à dire, pas que vous voulez rien dire. C'est pas que vous voulez rien dire, ce que vous avez. Moi, je le traduis politiquement. Et vous allez dire que je fais gore de la politique et que je ne fais pas l'étendue. Mais que comme vous n'avez pas capacité à argumenter sur un contre-budget, vous répondez. Mais non, mais c'est mon droit. Alors, voilà, vous avez la parole. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Jean-Marc. On a fait une déclaration, vous la prenez comme vous voulez. Je ne pas comme vous. On a pris vos déclarations et vos actes comme on l'a vu. Si nous estimons, c'est notre devoir de ne pas participer à ce débat-là, parce que effectivement, c'est un acte politique, nous avons au bout de notre démarche, et cet acte politique,
C'est comme quand on fait grève, monsieur le maire, vous avez peut-être oublié. Quand on fait grève, on ne va pas travailler, on n'a pas l'argent. On a la possibilité de débattre, on la refuse, on vous dit. Ce que vous avez fait là, on ne peut plus tolérer. Donc cet acte politique que nous avions aujourd'hui, nous disons, faites de ça, non mais attendez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, laissez-nous le droit de penser ce que vous
voulez. Ah non, mais tout à fait. Mais je maintiens. Moi je maintiens que c'est parce que notre budget est tellement bon que vous n'êtes pas en capacité de le critiquer, mais comme vous ne pouvez pas le dire, vous sautez ces quatre phrases dans le truc pour pas avoir débat. Si néanmoins, au cours de la discussion, vous avez quelque chose à dire, vous pouvez revenir prendre la parole. Voilà. Et si, à la présentation du budget, si au moment de la présentation du budget, où il sera effectivement dur, et ça nécessitera de votre part, là je le dis publiquement, si au moment où vous allez recevoir le budget, parce que là on est dans un débat, donc vous pourrez orienter, le mois prochain vous allez recevoir le budget où il faut que les dépenses soient équilibrées. Donc, il faudra, si vous faites une proposition de dépenses supplémentaires, que vous ayez une proposition d'économie supplémentaire, et si vous faites une proposition d'économie, que vous ayez une proposition d'emplacement, parce qu'il faudra que le budget arrive à l'équilibre. Mais on verra ça le mois prochain. Monsieur Ruiz, vous avez la parole.
Bien, merci de vous montrer cette discussion. Bien, on peut que vous compliquez le temps. Bien, alors, comme le disait justement M. Le Maire tout à l'heure, dans les communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire est obligatoire. Avant le vote du budget, il y aura lieu donc dans un mois. Ce débat permet de définir plusieurs choses. Les choix budgétaires, je suis en train de parler, et le programme d'investissement de l'exercice. Le budget comporte deux sections, une section d'investissement et une section de fonctionnement. Vous pensez que la section de fonctionnement comprend toutes les dépenses d'ordre général, dépenses personnelles, dépenses d'énergie, de fourniture, tout ce qui fait vivre la commune. Et les recettes de cette section de fonctionnement sont les impôts, les taxes, les dotations et les participations de l'État. Aussi, la section de fonctionnement doit dégager un profit en direction de la section d'investissement pour pouvoir investir. Voilà donc pour la section de fonctionnement. La section d'investissement, elle, voit un peu plus loin, elle permet des dépenses qui pourront garantir l'avenir. Au niveau des dépenses, ce sont des travaux importants dans l'année ou l'achat de matériel d'une valeur supérieure à 500 euros, qui est donc immobilisé. Et aussi, on trouve dans la section des dépenses d'investissement les remboursements des annuités d'emprunt. Au niveau des recettes, il y a bien entendu les subventions du département liées au programme que nous avons défini. Il y a aussi les virements de la section de fonctionnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc la participation propre de la commune aux investissements. Et il y a aussi le fonds de compensation de la TVA et la réalisation éventuelle en cas de besoin de nouveaux emprunts. Voilà, ça c'est rapidement dressé ce qu'est un budget dans sa globalité. Vous avez reçu en même temps que la convocation ce document. Ce document, il parle du fait de l'investissement et du fonctionnement depuis 2003 jusqu'à 2008. Je vais essayer de le dire rapidement, de le détailler rapidement. Vous avez plusieurs chapitres sur la gauche. Au niveau du chapitre 16, ce document démontre le désendettement de la commune et la politique actuelle de stabilisation de l'endettement à un niveau inférieur à la moyenne des communes de notre importance. Il sera stabilisé en 2009, comme en 2010, il était autour de 130 000 euros, il sera stabilisé en 2009. Chapitres 20 et 21. Ces chapitres sont les études, les travaux réalisés qui démontrent la dynamique des investissements de la commune compatible avec notre politique de désendettement. En 2008, ils ont été de 277 000 euros, avec un reste à réaliser de 275 000 euros, ce qui va porter notre effort en 2009 à hauteur de 600 000 euros. Le chapitre 13, il représente les subventions perçues notamment du Conseil général en 2009. Il sera sollicité à hauteur d'environ 133 000 euros. Il est à noter que le budget sollicitera aussi l'État à travers la dotation globale d'équipement. Nous avons réalisé en 2008 62 000 euros et le reste à réaliser est 233 000 euros sur cette ligne. Chapitre 16. Il représente l'emprunt contracté par la réalisation de l'investissement. La stratégie proposée sur le mandat 2008-2014 consiste à lisser la capacité d'endettement, la capacité d'emprunt de la commune en tenant compte de la volonté de stabiliser les charges de la dette. Ce lissage donne une capacité d'emprunt de l'ordre de 130 à 150 000 euros. En 2008, nous avions prévu au budget 92 000 euros, mais nous en avons seulement réalisé 40 000 euros d'emprunt. Pour 2001, nous envisageons de réaliser un emprunt de l'ordre de 70 000 euros. Je ne parle bien entendu que des investissements de la commune, je ne parle pas des investissements du SAN, dont le maire peut-être touchera un mot tout à l'heure. En matière de fonctionnement, alors, nous avons respecté, et je le dis, nos engagements. Ça n'a pas été facile, mais avec l'effort de tout le monde, nous avons pu respecter nos prévisions pour 2009. Malgré une inflation assez importante, de l'ordre de 3,50 à 4% en 2008, ces orientations ont démontré plusieurs choses. La maîtrise des charges, à caractère général, qui sont en diminution de plus de 12,33% sur la période 2003-2008, et de 0,8% par rapport à l'an passé, à 2007. Sur la période d'effort qui sera poursuivie, c'est un effort qu'on demandera de poursuivre en 2009, et nous aurons déjà plusieurs directions pour réaliser certaines économies. Les efforts consentis pour la pérennisation des emplois aidés, dans une optique de justice sociale et d'efficacité accrue des services municipaux, en 2008, la masse salariale stabilisée, puisqu'elle était prévue une augmentation de 3% en 2008, et que nous nous sommes maintenus à 1,07%. Et nous avons aussi la maîtrise de la charge des intérêts de la dette, qui, avec les dépenses réelles de fonctionnement, progresse de seulement 0,4% avec les dépenses de fonctionnement. Maintenant, venons-en aux orientations. L'ensemble des orientations en dépenses, la progression globale des recettes sera encore en 2009 inférieure à la progression des dépenses. Elle justifie donc le maintien en 2009 d'une stratégie fiscale identique à celle de 2008. Augmentation du produit fiscal. Nous vous proposerons donc, nous avons besoin pour équilibrer le budget de 80 000 euros. Et pour cela, nous proposons donc une augmentation du foncier bâti comme en 2008, une baisse du foncier non bâti et une baisse de la taxe d'habitation. L'ensemble des taux communaux restera en deçà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la moyenne départementale. L'arrivée de nouvelles recettes fiscales pour l'augmentation des bases en 2010 nous permettra, comme nous nous étions engagés pour la période, pour la mandature 2008-2014, une progression lissée de la fiscalité calée sur l'inflation. Donc, l'avantage de cette manière de procéder, c'est que au niveau des en soi, il faut savoir que la taxe foncière touche pour moitié les en soi, mais pour moitié les industriels. Et si nous appliquons ce que nous avons appliqué en 2008, nous, je vous répète ce que j'avais dit l'année dernière, c'est-à-dire qu'un propriétaire bailleur qui loue sa maison ou son appartement, donc paiera une taxe foncière plus importante, mais il a des revenus sur ce bien. Un propriétaire habitant sa maison aura une compensation par la taxe d'habitation, et un locataire verra une baisse de ses impôts. Au niveau social, donc, là, nous essayons d'être plus près de la réalité. Voilà. La discussion est ouverte. J'espère que vous êtes rapide. Je ne vais pas passer les trop de chiffres. Je sais que l'opposition ne posera pas de questions.
Mais si je parle, donc le débat budgétaire est ouvert.
y a-t-il des questions, Manu?
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les investissements?
Ah, les investissements ensemble, je l'ai dit un peu pendant les vœux, donc nous sommes en train de négocier un CDDA de 6 millions sur 3 ans, c'est les années 2009, 10 et 11, ce qui fera à peu près 2 millions d'investissements par an, qui seront financés à peu près 900 000 euros par le SAN, 1 million de subventions par le Conseil Général, versé au SAN, puisque c'est le SAN qui paie, c'est à peu près 100 000 euros sur la région, ce qui fera à peu près 2 millions d'investissements. C'est avec ces 2 millions, entre autres, que l'on paiera cette année la construction de la crèche, où on en a à peu près pour 1,7 million, plus, alors c'est un lissage, évidemment, on n'a pas tous les ans la crèche, donc 6 millions. Cette année, on sera probablement un peu plus parce qu'on a la crèche, on aura 300-400 000 euros de frais d'entretien de chemin, de drainage de chemin, etc. Donc, au pied du SAN, on est à peu près dans des investissements qui vont tourner à 2 millions d'euros en moyenne par an, ce qui est plus que quand même. Si on rajoute à ça les quelques dossiers de subvention du Conseil Général à 80%, on arrivera à réaliser sur la commune un peu plus de 2,2 millions à 2,3 millions d'investissements. En même temps, actuellement, la relance, etc. Je crois que la commune de Grance, avec ses 4 000 habitants, participera à la relance du BTP et de l'ensemble des opérations des entreprises pour essayer de relancer un peu l'économie.
De là, c'était... Après, là, c'est la réunion, on fera plus de 2 millions.
Et après, voilà. Voilà donc, au niveau de la partie SAN, qui a un budget, je rappelle, un budget qui est en...